There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Les signes de décodage à cet âge-là, il n'y en a pas beaucoup. Un bébé, une fois qu'il est né, on peut le laisser s'endormir. Avec lui, ça ne fonctionnait pas.
La bonne nouvelle, c'est que les clés, vous les avez en vous. On doit apprendre à décoder son enfant, on doit l'écouter, on doit l'observer.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Anne-Céline.
Bonjour Mathilde.
Je vous en prie, installez-vous.
Anne-Céline, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Alors moi, je viens vous voir aujourd'hui parce que j'attends mon quatrième enfant. Et donc, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus et d'échanger sur la manière de communiquer avec ce futur bébé. Parce que j'ai eu des expériences assez diverses avec les premiers. Mmh. Et voilà, donc je voulais parler de ça avec vous aujourd'hui. Mmh.
Qu'est-ce qui s'est passé avec votre premier enfant ?
Alors, mon premier, je ne savais pas beaucoup à quoi m'attendre, mais clairement, voilà, il a eu une naissance pas très évidente, je pense. Ça, je l'ai pas détecté tout de suite, mais c'est après en y repensant. Mais voilà, il a eu un petit peu de mal à sortir, etc., forceps, et je pense que ça n'a pas dû lui faire beaucoup de bien. Donc, c'est pas qu'il pleurait beaucoup, mais il avait du mal à s'apaiser, donc si je le posais et que je m'éloignais de la pièce ou quoi, il avait, vous savez, quelques réflexes de lever les bras un peu comme ça, ce qui peut être un peu impressionnant quand on n'a jamais vu ça, enfin voilà, quand on est chez soi et tout. Mon mari est quelqu'un aussi d'assez sensible à ça, il s'est découvert en lui un vrai instinct maternel, quasiment. Ça lui a posé aussi quelques difficultés. Et voilà, donc
ça vous impressionnait quand vous observiez ce genre de mouvement, voilà,
oui,
chez votre bébé, vous aviez l'impression qu'il était mal ou que c'était douloureux?
Oui, je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui pouvait générer ça chez lui, et puis pourquoi effectivement il n'arrivait pas à trouver un apaisement seul. Alors ça n'allait pas non plus jusqu'à l'avoir dans les bras tout le temps. Bon, de toute façon, c'était un premier, donc on était quand même de toute façon souvent avec lui. Mais moi, j'avais cet instinct qu'un bébé, une fois qu'il est né, il est dans le monde, on peut le laisser s'endormir, Et avec lui, ça fonctionnait pas. Donc c'est là que j'ai repensé, à la façon dont il était né. Et je me suis dit, ça a peut-être effectivement un lien.
Quel est le lien pour vous ?
Je saurais pas dire, peut-être de pouvoir avoir un peu plus de temps pour trouver sa place, là où il est, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu questionnée, en fait, ces réflexes qu'il pouvait avoir et le fait que c'était compliqué aussi de pas avoir de temps de sommeil très très long. Voilà, de faire des petites micro-siestes de 10 minutes, même tout bébé dans ses premières semaines. on avait pu entendre avant, ah, les petits bébés s'adorent beaucoup, etc. Bon, là, c'était pas le cas. Donc
vous étiez un peu déstabilisée, vous attendiez un bébé qui pleure peu, qui dort beaucoup.
Bah, comme on peut entendre, je m'attendais non plus à rien, je m'étais pas fait de schéma, mais parce que j'avais le pressentiment que chaque bébé a sa propre, enfin, a vraiment son unicité. Enfin, il y en a pas deux pareils. Mais voilà, en tout cas, que petit, ça prend pas beaucoup de place en tout cas, et on a été confronté à autre chose, donc et sans réponse, parce que les signes de décodage à cet âge-là, il y en a pas beaucoup.
Vous vous souvenez de ce que vous avez essayé de mettre en place ou de faire pour justement décoder ce qui pouvait se passer pour votre enfant?
Bah, dans mon souvenir, je crois qu'on l'a beaucoup porté, voilà, porte-bébé ou dans les bras, ou voilà, être vraiment près de nous en fait. Heureusement, on n'a jamais été confronté au fait de devoir le tenir un peu à distance. Et ça, je sais que ça peut être un peu difficile parfois quand l'enfant se manifeste beaucoup et qu'on peut être vraiment désemparé à un point où on a besoin de vraiment faire une pause. Ça n'a jamais été le cas. Heureusement, j'ai un mari qui est présent. Donc voilà, si jamais moi, je ne savais plus comment faire ou quoi, il pouvait
prendre le relais.
Prendre le relais, ouais. Voilà.
Comment ça s'est passé pour votre deuxième enfant?
Et bah pour le deuxième, encore différent, parce que là, naissance beaucoup plus facile. Bah, une deuxième, une fille, donc en plus, voilà, cette différence-là. Mais des pleurs incessants le soir. Donc, on pense aux fameuses coliques en se disant « mais oui, mais la couche est normale, enfin, qu'est-ce que c'est que ces coliques ou quoi ?» Et en fait, on a vraiment eu voilà, ces pleurs de 18h à 22h non-stop, sans pouvoir trouver de moyen de la calmer. Donc, compliqué aussi parce que on se dit, bon, elle doit avoir faim, mais le biberon, c'est pas forcément la solution. Elle n'en a pas forcément envie à ce moment-là. Et puis surtout, d'être confrontée à ça alors que c'est un deuxième enfant, on se dit, bah, on devrait savoir faire, en fait. Enfin, voilà, si... Mm-hmm. si... Et en fait, non. Voilà, on s'est rendu compte que bah, là aussi, il fallait pouvoir un peu plus s'adapter, en fait... à son besoin, mais quel était ce besoin? Voilà, parce qu'on entend ce mot de colique du nourrisson, mais en fait, on ne sait pas vraiment dans son corps ou dans ce bébé à quoi ça correspond, en fait. Donc, c'est ça qui est difficile, parce qu'on a pu poser des questions aux médecins, mais voilà, les réponses sont effectivement souvent les mêmes sur « ah bah c'est le soir, c'est les pleurs du soir, ça passera, etc. » Effectivement, ça passe, mais au moment où on le vit, c'est long, en fait.
Les réponses que vous avez eues, elles étaient floues pour vous?
Disons que il n'y a pas tellement de solutions, en fait, sauf à effectivement être présent et être vraiment apporter une forme de soins et de tendresse au bébé, mais c'est pas flou dans le sens de cette réponse-là, mais c'est flou dans le sens où on a beau voilà essayer de faire ce qu'il faut, c'est vrai que ça a du mal à passer. Donc c'est ça, je trouve, pour une maman comme pour un papa d'ailleurs, je pense, qui est difficile à accepter, parce qu'on se dit voilà, c'est cet aspect de consolation et de pouvoir satisfaire les besoins de l'enfant, elle est essentielle, et il y a des moments où ça fonctionne pas ou moins. Et voilà, c'est vrai que moi, je suis moins imaginative que mon mari, mais lui, voilà, il n'hésitait pas à les mettre dans des positions improbables. Moi, je ne pouvais pas. Ça m'était trop inconfortable. Mais bon, ça, c'était sa manière à lui de
participer. Donc chacun, vous avez trouvé des manières différentes pour gérer, pour accompagner votre enfant, chacun de vos enfants, finalement, et pour votre troisième.
Beaucoup plus facile. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Elle est vraiment... c'est une fille aussi. Elle a une forme de tranquillité qui est assez impressionnante. Alors, elle est née par césarienne, donc je ne sais pas si ça a un lien. Mais j'imagine que le choc est peut-être, en tout cas différent, et peut-être moins vif pour ce bébé. Et alors, elle est pour le coup très facile à décoder, donc ça fait du bien. Parce que c'est voilà, il y a vraiment... un petit grincement, un pleur, autre chose qui veut dire, enfin, qui veut toujours dire la même chose. Donc, c'est vraiment simple. Bon, je pense que c'est sa place dans la fratrie fait qu'elle doit sentir peut-être que il y a peut-être un peu moins de temps, on a peut-être un peu moins de temps à lui accorder, enfin ou en tout cas différemment. Mais pour autant, voilà, elle est bien différente de son frère et sa sœur aînée. Et voilà, elle montre des signes, par exemple, en motricité ou ce genre de choses que j'ai jamais connues avec mes autres enfants. Et donc, c'est assez déroutant aussi parce qu'elle participe beaucoup plus. Elle a envie, en fait, d'être jouée avec ses frères et sœurs ou quoi. Et donc, je peux pas la laisser, en fait, comme je faisais avec les autres où je savais qu'ils étaient tout tranquilles, etc. Non, elle se retourne tout le temps. Elle pousse des cris. Elle teste sa voix. Enfin, c'est impressionnant. Et on se dit, mais elle a 6 mois. C'est minuscule. Et en vrai, non, elle a beaucoup de capacités. Et donc, c'est chouette. Parce qu'on voit plein de choses et on voit vraiment des progrès. Et puis à la fois, il faut, on a vraiment envie d'accompagner ça. Et on se dit, bon, comment le faire de la meilleure manière possible, sans la brusquer, sans aussi frustrer ses grands frères et sœurs qui ont envie de la faire participer, mais qui n'ont pas forcément des gestes appropriés ou quoi. Donc bon, c'est encore un autre défi. Je dirais.
Mais vous aviez observé des compétences chez son frère et sa sœur quand ils étaient bébés, chez vos deux premiers?
Ouais. Honnêtement, ils ont été à la crèche très tôt, parce que je travaillais, enfin j'avais repris le travail assez tôt pour ces deux enfants. Et donc j'ai eu l'impression de rater un peu ces moments-là. Donc on a beau vous raconter le soir ce qui s'est passé, je voyais pas, donc... Ce que je pourrais dire, en tout cas, c'est que ils étaient bien là, même tout bébé, bien présents, et que voilà, on arrive à voir sur leur visage, enfin un sourire, un clin d'œil, quelque chose, qui montre que il se passe vraiment beaucoup de choses chez ces petites personnes. Et voilà, mais en termes de compétences, c'est vrai que je l'observe plus chez notre troisième enfant. Chez les deux premiers, c'était, je pense que j'étais pas autant observatrice de ça aussi. J'avais moins pris le temps, en fait, pour ça.
En grandissant, est-ce qu'ils ont, les uns les autres, voilà, rencontré des difficultés différentes? Là, je pense aux mots un peu classiques des bébés. Est-ce que vous avez connu ce genre de choses, la fièvre?
Oui, classiquement, oui. Pour ma troisième, pour l'instant, on est préservé, mais les deux premiers, oui, je me rappelle d'un épisode de bronchiolite assez sévère pour mon premier. Et alors moi, je suis quelqu'un qui ne me pose pas du tout de questions. Il avait une fièvre très forte, pour moi c'était qu'une fièvre et ça allait passer tout seul. Et il était en train de traverser un épisode de bronchiolite assez fort. C'est pas moi qui l'ai emmené aux urgences, c'est mon mari, je n'avais rien vu venir en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis dit, ok, bon en fait... Il y a quand même une certaine vigilance à avoir avec les tout-petits. Moi, c'est ma manière, en fait, de réagir face à leurs mots.
De pas dramatiser.
Voilà, je suis un peu laxiste sur ça. Donc, bon, j'essaye de progresser. Mais c'est ma façon de vivre les choses. Parfois, ça fonctionne. Hein, et du coup, on passe un peu à travers les mailles du filet. Mais là, non, ça n'a pas marché. Et donc, voilà, je pense qu'il faut pas hésiter. Et je m'étonne de dire ça, mais vraiment à poser, je pense, des questions. Enfin, parce que on ne sait pas tout. Sûrement, les bébés ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais de ne faire qu'à l'instinct, je ne sais pas si, en fait, c'est suffisant. J'aurais envie de dire que oui, parce que c'est ma manière de vivre les choses. Mais en fait, parfois, ça peut faire passer à côté de choses. Donc, ça m'a marqué ça.
Est-ce que depuis, du coup, vous êtes plus vigilante quand il y a de la fièvre?
Bah ouais, du coup, puis il y a quand même eu aussi des changements de médecin, parce qu'au début, je voyais un généraliste, et puis après, je me rendais compte que ça suffisait pas forcément pour le suivi, donc on avait un pédiatre et puis un autre, pour des raisons de situation géographique, enfin, ça n'a jamais été pour des questions de sensibilité par rapport à la personne. Et puis aujourd'hui qu'ils sont un peu plus grands et que mon bébé va très bien, on est tous retournés chez le même généraliste, mais voilà, enfin, on est assez...
C'est pour assez... des questions un peu plus pratiques.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que, voilà, tout petit, ils ont quand même besoin, effectivement, d'une attention particulière. Et même quand tout va bien, je pense que ça peut être important de, voilà, de bien suivre ce qui se passe, quoi.
Vous vous souvenez, au moment de leur naissance, voilà, ce premier examen avec le pédiatre, voilà, ce qui a été fait, est-ce qu'on vous avait expliqué ou pas?
Bah moi, j'ai eu la chance, oui, d'avoir toujours des équipes très présentes et attentives à moi, enfin voilà, à la nouvelle maman que j'étais. Et voilà, je me suis toujours sentie très en confiance, donc que ce soit pour les premiers tests, piqûres dans le pied, etc. J'ai pas forcément cherché à être auprès de mon bébé. Je savais que voilà, on l'emportait loin. C'était la première fois, mais si, je me souviens que ça m'avait quand même fait un petit pincement de voir ce petit berceau à roulettes partir dans le couloir de l'hôpital. Bon, c'est quand même un souvenir parce qu'on sait pas qui va se passer ça. Je sais plus à quoi ça sert d'ailleurs cette petite piqûre de pied. Bref, on lui prend un petit peu de sang, voilà. Et après, c'est vrai que les épisodes de, enfin les premiers examens en fait avec le pédiatre à la maternité, moi j'ai trouvé que c'était des moments, enfin vraiment extraordinaires. Parce qu'on parlait de compétences tout à l'heure, ça permet de voir effectivement notre bébé qui a 3 jours, qui a peut-être encore ses réflexes. Des réflexes de marche ou, enfin, je trouve que c'est vraiment impressionnant et c'est, moi, ça m'avait rendu fière en fait et je me suis dit, fière déjà de ce qu'on avait fait ensemble, on a fait, enfin, ce bébé et puis fière de lui, de cet enfant qui est déjà capable, de faire des choses et je trouve que c'est, c'est quelque chose qui m'avait touchée et qui m'a encore touchée pour la naissance de ma troisième. Ouais.
Merci Anne-Céline. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre expert, le docteur Arnaud Pfersdorf. Bonjour docteur Arnaud Pfersdorf. Vous êtes médecin pédiatre réanimateur, vous exercez à Strasbourg et on vous connaît bien grâce à la maison des maternelles dans laquelle vous intervenez très régulièrement. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont Bébé, premier mode d'emploi, qui vient d'être réédité aux éditions Hachette Pratique. Dans mon cabinet, j'accompagne de nombreux parents qui viennent tout juste d'avoir un enfant. Comme Anne-Céline a pu nous en témoigner, ils expriment souvent une certaine inquiétude face à ce bébé qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas toujours décoder, qui a ses propres besoins auxquels ils vont tâcher de répondre en faisant du mieux possible. Ils ne sont pas toujours aussi informés des soins, des examens que leur bébé va avoir, ce qui est un moment qui peut susciter aussi un peu d'inquiétude et des questions. Donc, comment décoder au mieux son bébé? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, docteur, au moment de la naissance, voilà, certains gestes vont être faits. Anne-Céline nous parlait de cette piqûre dans les jours qui suivent, mais il se passe déjà des choses au moment de la naissance. Quel est le rôle du pédiatre à ce moment-là?
Alors, tout d'abord, bonjour. Merci de m'avoir invité. Je suis très touché par les témoignages d'Anne-Céline. Le pédiatre que je suis, en plus réanimateur, a un rôle évidemment important à jouer, même avant la naissance, parce que il y a parfois des décisions collégiales qu'il faut prendre quand il y a des difficultés en fin de grossesse, et l'obstétricien parfois doit aller chercher un bébé plus tôt que prévu. Mmh. Et là, on fait des réunions, on discute, on parle, et on voit s'il faut aller effectivement provoquer une naissance plus précoce.
Donc évidemment, dans ces situations-là, la prise en charge ne va pas être la même.
La prise en charge va être totalement différente. Et moi, je vois en plus de 30 ans de pratique, ma pratique a énormément évolué. Mmh. Et c'est vrai que, pour vous donner un exemple, quand je faisais une ponction lombaire à un prématuré ou à un enfant ou à un nourrisson il y a 30 ans, notre objectif à nous, c'était qu'on ait une infirmière, une péricultrice qui tienne bien l'enfant pour qu'il soit en bonne position et qu'on puisse bien placer l'aiguille. Et ils se débattaient, mais ce qui comptait, c'était que la péricultrice fasse en sorte qu'il ne bouge pas. Et on se disait, non, il a pas mal, il bouge parce qu'il n'aime pas qu'on le coince. La médecine a heureusement évolué. Et la douleur, on la prend énormément en compte. C'était une médecine d'antan. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, c'est vrai que l'arrivée d'un bébé dans une maternité, c'est un moment extraordinaire. Et j'ai beau être pédiatre et avoir vu des milliers d'enfants naître, je ne me lasse pas. Il n'y a jamais deux situations différentes. Il n'y a jamais deux enfants pareils. Enfin, c'est pour ça que notre rôle est important. Quand les parents sont là et qu'ils ont passé cette phase de se projeter, parce que tant que le bébé n'est pas là, on ne sait pas vraiment, même si on a une écho en 3D, on ne sait pas. Et c'est nouveau, et même les livres. Quels que soient les livres,
oui, ils vont ça pas suffit dire comment pas. Va être le bébé.
Le mode d'emploi d'un bébé, c'est en fait l'observation qui va compter. Mmh. Et c'est vrai que mon premier contact avec des parents, je ne parle pas en salle de naissance, parce que si je suis en salle de naissance, c'est qu'il y a eu un problème. Mmh. Donc ça, c'est autre chose. Mais quand on fait, par exemple, la visite du premier 24 heures, il est essentiel d'avoir les deux parents présent, si on peut, c'est pas toujours le cas, parce que c'est un moment où on peut faire passer des messages, mais il faut pas en faire passer trop, parce que c'est un moment où il y a une telle émotion, décharge, pas seulement physique, de récupération, décharge hormonale ou autre, mais une décharge sur le plan de l'intégration de tout ce qui est en train de se passer. Et souvent, on reproduit un peu des gestes, des choses qu'on a connues par ses propres parents, sa propre culture. Pourquoi on veut avoir un enfant ? Mmh. Ça va chercher très très loin. Mmh. Et du coup, il y a tout qui vous tombe dessus d'un coup. Et ce qui fait que si on donne trop d'informations à ce moment-là, elles ne restent pas. Et très souvent, j'observe des parents qui me disent « Mais ça, on ne nous l'a jamais dit. » Si, on vous l'a dit. Mais vous ne l'avez pas retenu. Et c'est tout à fait normal que vous ne l'ayez pas retenu, parce qu'il y a trop de choses qui se passent. L'exemple, tout à l'heure, vous parliez du test de Guthrie, cette petite prise de sang qu'on fait au troisième jour. En général, il faut la faire entre 48 et 72 heures. On attend que les métabolismes soient mis en route. On prélève quelques gouttes de sang pour envoyer en biologie moléculaire. C'est pour dépister des maladies génétiques rares, l'hypothyroïdie, la mucoviscidose, etc. Mais c'est vrai que c'est un moment de séparation. Mmh. Alors, les parents peuvent être présents. On fait boire maintenant un peu de dextrose,
oui, on va mettre le bébé au sein.
On met le bébé au sein et on se rend compte qu'en faisant ça, le bébé ne pleure pas. C'est formidable. Il est dans les bras de la maman ou du papa ou posé sur la paillasse, comme on dit. enfin, bref, on fait cet examen-là. Les PER ont vraiment un talent fou. Les sages-femmes ont un talent fou pour faire ça maintenant. Et c'est extraordinaire. Je vois plus un bébé pleurer quand on fait ce prélèvement maintenant. Ça montre que les choses ont beaucoup évolué.
Qu'est-ce qu'on va lui faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on va observer dans ce premier examen des 24 heures ? Qu'est-ce que le pédiatre il observe chez le bébé ?
C'est un moment magique, parce que j'ai presque envie de dire on va observer les parents. Pour moi, ça compte énormément. De sentir comment ils se positionnent par rapport au bébé. Parce que nous devons, avec notre expérience, on va dire, évidemment, notre métier, c'est de dépister des maladies, de faire des diagnostics, de repérer des choses rares. Bien entendu, on va examiner le bébé, et tout ça, c'est important. On va examiner les hanches, on va écouter son cœur pour voir s'il n'y a pas un souffle. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le déroulé, parce qu'il y a énormément de choses qu'on va détecter. Mais c'est aussi un moment extrêmement important pour sentir comment l'enfant est accueilli. Alors, l'amour, c'est une chose de son enfant. C'est bien sûr. Mais il y a des familles, il y a des mères qui sont parfois dans une solitude extrême, dans une difficulté extrême qu'elles cachent parfois, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, la psychogénéalogie familiale. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pesant. Et le moment de la naissance, alors déjà en salle d'accouchement, pendant 10 minutes, 15 minutes, c'est un moment privilégié où une sage-femme va réussir parfois à obtenir des informations sur justement cette solitude de la mère, ou peut-être même des violences qu'elle a subies elle-même étant plus jeune. Enfin, oui, ça peut aller chercher très loin. À nous d'arriver à détricoter, de dépister certaines choses pour voir s'il ne va pas y avoir une fragilité dans l'environnement de l'enfant, auquel cas c'est aussi notre rôle. Parce que, et vous l'avez dit tout à l'heure, un bébé qui pleure, c'est tous les bébés. Et décrypter un pleur, c'est quelque chose de très compliqué. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Et beaucoup de parents sont extrêmement démunis devant un pleur de leur enfant, parce qu'ils n'ont pas les outils, parce que le bébé qui pleure ou qui crie, c'est le seul moyen de communication qu'il a. Il n'a rien d'autre. Il a rien d'autre. Il peut pas se lever sur ses pattes, comme le ferait un petit Bambi. Il peut pas, il ne sait rien faire d'autre. Donc, il n'y a pas de graduation. C'est soit zéro, je suis calme et tout va bien. Et encore. Soit je hurle. Mais il n'y a pas de, c'est pas 1 sur 10 ou 5 sur 10, le pleur, ça peut être tout de suite intense. Mmh. Et il faut que ce soit intense pour un bébé parce qu'il est tellement dépendant qu'il faut qu'on l'entende à travers une cloison épaisse. Mmh. C'est pour ça que c'est tellement aigu. Et on entend parfois, et c'est des histoires de génération aussi, des parents que je vois arriver démunis en consultation à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et où les deux parents sont pas d'accord. Et où je vois le père qui dit « Oui, mais dites à ma femme, elle le prend tout le temps dans les bras, c'est pas bon, il fait des caprices, ça va lui donner des mauvaises habitudes. » Et quand j'entends ça, après avoir examiné l'enfant et de savoir que cet enfant va parfaitement bien, il y a des tas de causes de pleurs. Évidemment, on va éliminer, c'est notre rôle, un problème physique autre, je vais pas détailler ça là maintenant. Mais quand j'entends ça, en général, ma réponse est assez fulgurante, je dis « Ben, je crois qu'on va parler. » Vous venez de dire quelque chose d'extrêmement important, mais je pense que vous n'avez pas la notion du poids des mots que vous venez de déposer auprès de votre femme. On va parler. Et parler, ça veut dire pourquoi vous dites que le caprice n'existe pas chez un bébé. Et ça, c'est des notions relativement récentes. Il faut laisser pleurer son bébé. Et souvent, on retrouve la génération au-dessus. En particulier la génération des pères, enfin des parents du papa. Et je suis souvent obligé de décricoter et de, mais avec bienveillance. C'est pas, on n'est pas là pour montrer du doigt les parents. On est là pour accompagner, pour faire en sorte que les choses se passent bien, pour éviter que les choses se compliquent. Parce qu'après, on peut avoir des crises dans le couple, à cause d'un pleur de bébé. On peut avoir un bébé secoué. C'est une catastrophe. Le bébé qui secoue, la maman qui n'en peut plus, qui se dit, je suis une mauvaise mère. Mon bébé pleure, je n'arrive pas à le calmer. Donc, c'est que je suis une mauvaise mère. D'ailleurs, la mère de mon mari me l'a laissé sous-entendre. Ça va chercher loin. Des petites phrases, des petites choses qui sont placées. Mais comment font les autres mères? Elles ont l'air de bien se débrouiller, moi j'y arrive pas. C'est que je suis une mauvaise mère. Et c'est là qu'il peut y avoir une immense solitude. Vous connaissez bien le sujet. Mmh. Et c'est là que notre rôle de pédiatre est aussi important. Ne serait-ce que pour dire, parce qu'on est médecin, je vais vous dire une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que votre enfant est en excellente santé. Ah. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est que les clés, vous les avez en vous. Prenez du temps, faites des siestes. Les nuits vont être longues, mais ne me posez plus la question, mais quand est-ce que mon enfant va faire les nuits? Il n'a à peine que 6 semaines. Il ne sait pas encore faire la différence entre le jour et la nuit. La mélatonine, le pic n'est pas encore sécrété. Le cortisol, il faut laisser le temps. Il n'est pas encore dans un rythme circadien. On est encore dans un rythme ultradien, c'est-à-dire un rythme lunaire, en quelque sorte. Votre bébé fait encore des journées de 25 heures. Et ça, les parents ne le savent pas. Et on a un rôle, je crois, important à jouer. Et quand on dit aux parents, votre enfant va bien, il est en bonne santé. Je vous l'affirme, je vous l'atteste, je viens d'examiner, tout va bien. Mais il faut que vous le disiez. Vous avez un rôle important en tant que parent, vous devez dire à votre enfant, vous penchez vers lui, quand vous faites des câlins, quand vous faites du portage, comme vous le disiez tout à l'heure, quand c'est en pleine nuit à 3h du matin, on s'en fiche que ce soit à 3h du matin, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça en a pour vous parce que vous reprenez le boulot le lendemain, et alors ? Tant pis, vous ferez une sieste sur votre lieu de travail. Ce qui compte, c'est de se caler en tant qu'adulte sur le rythme de l'enfant et pas le contraire. Et souvent, quand je dis ça, ça se décoince. Il y a des choses qui se passent. Et c'est important, parce que, évidemment, en tant que parent, on véhicule plein de choses, on a un sac sur le dos, un truc énorme, alors qu'en fait, on ne devrait rien voir. On doit apprendre à décoder son enfant, on doit l'écouter, on doit l'observer. L'observation est extrêmement importante. Et nous autres médecins ou professionnels de l'enfance, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'écouter les parents pour veiller à ce qu'ils écoutent leur enfant. Vous voyez, c'est toute une chaîne. Et ça va chercher loin. Ça va chercher loin.
Bien sûr. Justement, par rapport à ces pleurs, pour votre deuxième, Anne-Céline, vous parliez de ces pleurs du soir, alors les fameuses coliques. Pourquoi on parle de coliques alors que le transit peut être tout à fait normal?
Alors, il y a pleurs, il y a coliques. Les coliques, ça arrive en général vers 3-4 semaines. C'est pas au début. Et parfois, quand je vois des parents qui bébé à 15 jours, ils sont tout contents, la maman allaite ou donne le biberon, ça se passe bien, c'est formidable, on est content et tout. Mais je leur dis, attendez, vers un mois, c'est là que les choses se corsent. Alors je dis pas ça pour casser l'ambiance, non. Mais c'est mieux d'être prévenu. Vous allez voir, peut-être que ça va arriver, mais si ça arrive, pas d'inquiétude. C'est fréquent. Pourquoi ? Parce que un bébé qui naît à la naissance, il a un microbiote. Il y a le microbiote cutané, le microbiote pulmonaire, le microbiote intestinal, enfin on a des microbiotes un peu partout. C'est toutes ces fameuses bactéries, entre autres, ces milliards de bactéries qui vont se développer dans l'intestin pour le microbiote intestinal et qui vont permettre à la digestion de se faire, au côlon, au péristaltisme de s'installer, à un équilibre. Enfin, il y a plein de choses qui vont se faire grâce à ça. Et du coup, ça met du temps. C'est pas tout de suite au début. Et le temps que ça se mette en place, eh bien, peu à peu, ça va donner à une modification de la digestion. Parfois, ça peut donner des reflux. Alors, on confond souvent reflux et colique. Les reflux, c'est quelque chose de fréquent chez les bébés. Et puis, la colique qui va arriver vers la troisième, quatrième semaine. Les coliques, c'est des crampes intestinales, c'est des histoires de péristaltisme, c'est du gaz dans le ventre, c'est on ne peut plus normal. Sauf que le bébé qui vit ça, c'est la première fois qu'il vit ça, il allait bien et ça va plus bien. Parce qu'il a tout son temps est occupé à quoi ? À dormir ou à se concentrer sur sa digestion. Et la digestion ne se passe pas bien, du coup, ben, je vais le faire savoir. Donc il crie. Mais il crie parce qu'il a des coliques, vous voyez, ou il pleure parce qu'il a des coliques. Et très souvent, il faut savoir apaiser l'enfant, mais ne pas tout de suite lui donner le sein ou le biberon. Parce que c'est l'erreur dans laquelle tombent la plupart des parents, et c'est bien légitime, c'est normal. Ben, on pense qu'il a faim, alors on lui donne un biberon ou le sein, et d'ailleurs ça marche, parce qu'il se calme. Mais il se calme parce qu'il se shoot à la morphine. C'est-à-dire qu'en tétant, en suçant, il fabrique des endorphines, ces fameux neurotransmetteurs. Il y a différents types d'endorphines, il y en a trois, mais ça calme la douleur, ça apaise. Mais c'est juste reculer pour mieux sauter. Il va prendre du lait dont il n'a pas forcément besoin. Il va être apaisé pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Et au bout de 3 quarts d'heure, il va de nouveau se mettre à pleurer. Et les parents se disent, bon, ben, c'est peut-être qu'il n'a pas assez pris à manger ou que j'ai pas assez de lait. Rebelote. Et on aggrave le problème. Et après, moi, je vois des parents, des mamans arriver, un bébé qui a 3 mois, 4 mois, et qui donne 5 fois le sein ou 3 fois le sein encore la nuit, ou le biberon. Et c'est pas du tout ce que le bébé a besoin d'avoir. Ce qu'il lui faut, c'est un apaisement, de sentir que ses parents sont apaisés, qu'ils le caressent, qu'ils le portent. Le portage, vous en parliez tout à l'heure, c'est vraiment très bien. Moi, j'apprends aux parents tout de suite, ça fait partie des choses que je donne comme indication en salle, quand on fait l'examen des premiers jours. Je leur donne 5-6 choses importantes, parce que je sais que ces 5-6 choses-là, ils vont les retenir, et ça va être essentiel pour eux. Et parmi ces choses-là, je leur dis, tout de suite, déjà dans la chambre, la maternité, vous allez apprendre à coucher votre bébé sur le ventre. Oh, sur le ventre ? Horreur ! Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il va faire une mort subite. Et je continue en disant... Vous allez lui apprendre à le mettre sur le ventre, sur un plan dur, une table allongée ou un tapis d'éveil. Vous pouvez commencer à la maternité, vous continuerez de le faire à la maison, sous surveillance, bien entendu, vous ne le laissez pas tout seul, mais vous le mettez comme ça plusieurs fois par jour, pendant 5-10 minutes, en restant à côté de lui. Et l'avantage, c'est quoi ? C'est que d'une part, en étant sur le ventre, il va bouger les jambes. Et en bougeant les jambes, il va se masser le ventre sur le plan de travail sur lequel il est couché et il va s'apaiser tout seul. Il va se faire un self-control. Et ça permet justement d'éviter beaucoup de crises de colique, de pleurs, ça rassure l'enfant. Et ça aide pour la digestion. Et deuxièmement, le gros avantage, c'est qu'en étant sur le ventre, il va redresser la tête. Et en redressant la tête, il va développer toute cette musculature du crâne, du cou. Ça va permettre de faire de la prévention de la plagiocéphalie, le crâne plat. Donc, ça fait partie des choses que j'explique aux parents. Et les enfants qui apprennent à être comme ça sur le ventre très tôt, on a souvent moins de problèmes de colique et de digestion après.
Oui, en tout cas, là, ça m'évoque aussi toutes ces positions que les bébés souvent aiment beaucoup, d'être sur le ventre, sur le bras. En effet, et on ne recommande pas. En tout cas, vous êtes le premier que j'entends dire ça. Et là, je pense à tous les parents que j'accompagne et qui me disent, on a fini par le mettre sur le ventre parce que c'était le seul endroit où il était bien, en tout cas la seule manière où il était bien et où il a pu dormir, et qui se sentent coupables parce qu'on leur a dit que surtout pas, qu'il fallait surtout pas faire ça.
Non, faire sur le ventre, mais sous surveillance. On ne quitte pas des yeux un bébé qui est sur le ventre. On peut même rester à côté de lui pendant qu'il s'endort. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le sommeil chez un bébé, c'est un sommeil ultradien, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux phases de sommeil. Il rentre dans une phase de sommeil agité. Un bébé s'endort toujours dans une phase de sommeil agité. Mmh. Vous l'avez peut-être remarqué, on l'a dans les bras, il s'est endormi depuis 5-10 minutes. On se dit, c'est bon, ouf, il est calmé, il est apaisé. On se penche pour le coucher et à peine on le penche, il se réveille, il se met à hurler. Mais parce qu'il est dans une phase de sommeil agité. Un bébé, et ça dure en général 20 à 30 minutes. Il faut attendre presque 20 à 30 minutes pour être sûr, quand on a des problèmes d'endormissement avec un bébé. Mm-hmm. Et c'est seulement après qu'on peut le coucher. Et là, bien sûr, on le met sur le dos, bien entendu.
Par rapport à ce que nous disait Anne-Céline, justement, sur ce... Je ne sais plus, c'était votre premier enfant, je crois, qui faisait des micro-siestes la journée. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est normal que le sommeil soit aussi haché, alors qu'en effet, de manière courante, on entend que les bébés dorment beaucoup, ont des longues plages de sommeil durant lesquelles les parents vont pouvoir faire la sieste et récupérer?
Alors, le sommeil, c'est une vieille histoire. Et c'est une histoire... C'est très curieux parce que on a l'impression qu'autrefois, les bébés n'avaient pas de problème de sommeil. Et c'est vrai que dans un sens, ils avaient beaucoup moins de problèmes de sommeil parce qu'on les faisait dormir sur le ventre. Et un bébé qui dort sur le ventre, il est complètement apaisé. Ça, c'est évident, c'est le remède miracle. Sauf que, depuis qu'on les fait dormir sur le dos, heureusement, on a réduit de plus de la moitié les cas de mort subite. Donc, c'est pour ça. On a remplacé un bénéfice, mais du coup, on a un problème par ailleurs, c'est le fait qu'il y a des troubles du sommeil. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans ces difficultés, ces rythmes. Un bébé, c'est des cycles de 40 minutes qu'il fait au début. Il dort par cycle de 40 minutes. Puis après, fin de cycle. Et là, il se réveille. Il peut faire des réveils nocturnes. Puis après, il rentre dans un cycle suivant. En fait, c'est des rythmes qui sont... Tous ces rythmes sommeil chez un bébé pendant les 2-3 premiers mois sont calés en fonction de... Non pas la lueur du jour, parce que ça va se faire progressivement, mais le rythme des repas. Donc en fait, il va se caler sur les rythmes des repas. Et petit à petit, les cycles vont changer, vont s'allonger pour aller vers un rythme plutôt adulte. Mais ça va se faire plus tard, vers 5-6 mois. Et c'est là qu'on commence à diversifier l'alimentation, c'est là qu'il y a des choses nouvelles qui se passent, c'est là que le bébé rentre dans un rythme circadien, c'est-à-dire la différence entre le jour et la nuit. Et il va, à ce moment-là, passer avec une sieste le matin, une sieste l'après-midi et une longue nuit la nuit. Mais... La nuit, c'est des cycles qui se suivent, 5-6 cycles différents que des parents connaissent bien et où parfois il faut aller planter le tipi dans la chambre du bébé parce qu'il ne va pas se rendormir tout seul malgré tout. Et c'est là que les choses sont parfois un peu compliquées.
Pour continuer de nous donner des repères, alors Anne-Céline nous disait qu'elle était une maman qui faisait plutôt confiance à son instinct et qui évitait de dramatiser les choses, alors ce qui l'a amené à se retrouver dans une situation un peu compliquée avec son fils qui avait de la fièvre et qui finalement faisait une bronchiolite. Alors qu'en est-il de la fièvre pour un bébé? Est-ce qu'il faut l'apaiser, pas l'apaiser? À partir de quand il faut s'alerter, aller consulter, emmener son enfant chez le médecin ou aux urgences?
Alors, la fièvre, il faut la dédiaboliser. La fièvre, ça fait partie, et on en parle beaucoup en ce moment, puisque avec l'ambiance Covid et tout, la fièvre, ça montre que tout fonctionne bien chez l'enfant comme chez l'adulte. Cela dit, il faut savoir qu'un bébé de moins de 2 mois, grosso modo, peut faire une septicémie, une infection importante, et ne pas avoir de fièvre. La régulation, enfin, disons, le mode de communication par la fièvre ne fonctionne pas de la même façon chez un petit bébé. C'est pour ça qu'on s'en méfie chez les tout-petits. Et c'est pour ça aussi qu'on donne comme consigne aux parents, et ça on le dit au moment de la première visite en maternité, si votre enfant fait de la fièvre avant l'âge de 2 mois ou 3 mois, vous appelez votre médecin tout de suite. C'est important parce qu'il peut y avoir quelque chose de plus grave qui se passe derrière, on ne sait jamais. La bronchiolite, en général, ça vient un peu plus tard. Il avait quel âge, votre bébé?
Il avait 4-5 mois.
Voilà. La bronchiolite, c'est rare que ce soit avant 3 mois. Alors la fièvre, il faut la respecter. il ne faut pas tout de suite se précipiter. Ce qui est important, alors ça aussi, ça fait partie des choses que je dis aux parents, mais lors de la première consultation au cabinet, je leur dis, je vais vous prescrire deux choses. Il y a deux choses qu'il faut que vous ayez à la maison. Un thermomètre rectal, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace pour voir la température du corps. Thermomètre frontaux, axillaire, tout ça, ça ne marche pas très bien chez les petits nourrissons. Et avoir du paracétamol à la maison. Vous avez ça en pipette, dans un coin, et comme ça, vous êtes tranquille. Pourquoi ? Parce que les premières fièvres, en général, commencent vers l'âge de 2 mois, entre 2 et 3 mois. C'est souvent un peu contemporain des poussées dentaires. Ce n'est pas dû aux poussées dentaires. Mais les poussées dentaires font que... Les poussées dentaires, c'est les dents qui avancent micron par micron dans la gencive. Et du coup, ça donne une inflammation. Les dents, elles sortent plus tard. Elles sortent vers 8 ou 9 mois. Ou parfois avant, parfois plus tard. Et cette inflammation, l'organisme va réagir en déclenchant un peu toute une chaîne, toutes ces cytokines, ces interleukines, et en fabriquant de la fièvre aussi. Parce qu'ils pensent que c'est peut-être un virus qui rentre, ils se demandent ce qui se passe. Donc, on lâche ce qu'il faut pour fabriquer de la fièvre. Et du coup, on le voit assez rapidement, si c'est un problème de dentaire qui est contemporain, parce que les virus vont rentrer par l'intermédiaire de la gencive, eh ben, on va fabriquer de la fièvre. Là, on donne, si la température rectale dépasse les 38, on peut donner une dose de paracétamol, si l'enfant ne va pas bien. Mais un enfant de 5 mois, 6 mois, qui fait 38,5, mais qui tolère bien sa fièvre, on va l'aménager un peu, on va attendre. Elle fait son boulot, la fièvre. Le médicament, c'est quand même un médicament. Même si c'est du paracétamol, il y a quand même des effets secondaires pour tout médicament, quel qu'il soit.
Donc c'est le comportement de l'enfant.
On regarde le comportement de l'enfant, on voit comment il est, on le découvre. On le fait boire, on lui donne un peu le sein, on lui donne le biberon, on vérifie qu'il urine bien. Et un bébé qui a de la fièvre, qui urine bien, qui est bien présent, on se rassure. Par contre, il a 3 mois, 4 mois, il a une fièvre, il prend pas, il s'alimente pas, il chouine, il gémit, là on n'attend pas. Là, c'est sûr qu'on va appeler le médecin. On fait beaucoup de téléconsultations maintenant. C'est génial, les téléconsultations. Je pense que votre pédiatre ou votre médecin doit en faire. Ça permet de déminer. On voit à distance. Et là, très vite, on va pouvoir dire, non, vous me l'amenez, je veux l'examiner ou pas.
Dans tous ces petits maux que les bébés peuvent avoir, alors vous parliez des sursauts, en tout cas, alors le bébé il a plein de réflexes aussi. Alors est-ce que voilà, toutes ces manifestations sont des réflexes ou est-ce que c'est différent des réflexes?
Alors c'est là que la notion d'observation de son bébé est extraordinaire. C'est un apprivoisement. C'est très important de voir son... C'est pour ça que c'est important que le papa ait un congé paternité. On en parle... c'est très important parce qu'il faut la présence des deux. Parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit. C'est votre manière de ressentir qui n'est pas la même que celui du papa. Et c'est très bien parce que c'est très complémentaire. Et ça, c'est important. Et l'enfant le ressent. Et c'est vrai que l'arrivée d'un bébé, un premier bébé, eh bien, il faut passer son temps à l'observer. Les livres n'y suffisent pas. Alors, bien sûr, on va chercher sur Internet, on va chercher dans des très bons livres, tout ça, bon, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On l'observe, on apprend, on décrypte. Et le bébé de la voisine ou de la bonne copine, ça ne va pas être les mêmes réactions.
Oui, et Anne-Céline nous disait que même entre chacun de ces bébés, ça n'a pas été les mêmes bébés.
Et en plus, entre chacun bébé, c'est différent. Et en plus, la perception n'est pas la même. Parce qu'avec un premier, on va percevoir de telle façon. Le deuxième, on va le percevoir d'une autre façon. Parce qu'on se dit que, oh oui, le premier, ça c'était bien. Bon, alors chez vous, c'était différent parce qu'il y avait eu quelques petits problèmes au début avec le garçon, le premier, qui a peut-être fait que du coup, vous avez angoissé à l'arrivée du deuxième.
Peut-être.
Ouais. Même pendant la grossesse, en vous disant, oh là, si c'est comme le premier. Et du coup, ça suffit pour que tout se passe mal. Parce que le psychisme, il nous envahit de toutes parts, de tous les côtés. Et on le voit par exemple dans un allaitement. Une maman qui a essayé d'allaiter un premier, ça ne s'est pas bien passé. Elle a décidé d'arrêter au bout de 15 jours parce que c'était le Bronx, qu'elle n'y arrivait pas, elle était crevée. Puis en plus, peut-être que le compagnon ou le mari lui a dit « Écoute, t'embête pas, donne du lait et tout ça ». Et puis, dans la famille aussi, on va dire « Te fatigue pas, ma pauvre fille, tout ça, bon ». la génération au-dessus qui est finalement contente que la fille n'allaite pas, parce qu'elle n'a pas allaité elle-même. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. On retombe dans la psychogénéalogie familiale. Un deuxième arrive. Je fais quoi? Ben, si je la tétée de bienvenue, ça c'est la grande mode maintenant, on donne la tétée de bienvenue pour déculpabiliser tout le monde. Mais j'y vais pas, qu'est-ce qu'il va penser mon compagnon? Ah oui, mais surtout, si j'allaite le deuxième, j'ai pas allaité le premier, il va le ressentir. Et qu'est-ce que je dirai au premier quand il sera grand? Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Donc, en fait, il faut pas se poser de questions. Il faut surtout pas se poser de questions. Il faut écouter son enfant. Ça se passe à trois, puis à quatre, puis à... Mais plus on se pose de questions, plus ça devient compliqué. En fait, voilà, il faut s'apprivoiser. Et il n'y a que les parents qui savent vraiment ce qui va ou ce qui ne va pas chez son enfant. C'est pour ça que nous, pédiatres, on écoute les parents. C'est très important d'écouter
les parents. Là, je pense à des mamans que j'ai accompagnées qui me disaient « Mais je sens que mon bébé, son pleur, il n'est pas normal. On me dit que c'est normal qu'il pleure, mais je sens que c'est plus intense, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et qui parfois ont du mal à se faire entendre. J'ai même des patientes qui ont enregistré les pleurs, ont noté les heures pour vraiment prouver au pédiatre qu'elle ne mentait pas et que c'était trop intense et qu'elle sentait bien que c'était trop intense. Donc, souvent, les parents, ils savent, ils décodent, mais bah, vraiment de les inviter à se faire confiance et à essayer en effet de se faire entendre s'ils ne sont pas toujours écoutés.
Alors, il faut se faire confiance, ça c'est important, mais ça ne suffit pas toujours. Parce que parfois, et c'est bien naturel en tant que parent, on se dit, mais oui, mais un train peut en cacher un autre. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose. J'ai la copine de la copine, m'a raconté son histoire, et puis finalement, le gamin, il était autiste. Un bébé qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Bon, ben non, c'est pas parce qu'un bébé pleure tout le temps qu'il est autiste. Mais, du coup, on peut aussi faire... Je vois des parents qui arrivent, qui me font écouter les enregistrements en me disant « il est autiste, il pleure trop, il faut que vous nous le disiez, docteur. » Là, on a quelque chose à déminer, vous voyez. Il faut donc s'écouter. Il faut pas écouter les autres, il faut s'écouter soi-même, voir son enfant. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un praticien qui soit à l'écoute. Alors bon, je veux pas polémiquer. On a des métiers qui sont pas toujours faciles parce qu'on est très demandé, on n'est pas assez nombreux, on est concentré dans les villes. En plus, quand on est réanimateur, on a des gardes, on a des journées longues. Et en plus, en ce moment, on a le Covid. Alors je vous dis pas, en ce moment, on est vraiment bon, mais c'est pas une raison. On doit toujours écouter des parents, on doit prendre du temps. Et je dirais que ce qui est très important, c'est que des parents repartent d'une consultation, que ce soit chez un médecin ou chez une psychologue, ou chez... Les parents doivent repartir en se disant « on m'a écouté ». On m'a écouté. Et je dirais que rien que ça, c'est déjà une grosse part de la thérapeutique. C'est bête, hein, mais c'est très important de déposer quelque chose. Parce que si on ne se sent pas écouté, qu'est-ce qui va se passer? On a l'impression d'être pas pris au sérieux. On a l'impression que ce qu'on a raconté, on en a peut-être ajouté. On a l'impression d'être un peu pimpin, quoi, que finalement, c'est le problème, c'est moi la maman ou c'est moi le papa. Alors, c'est souvent les mamans. Ça, je remarque, les mamans ont une capacité phénoménale à culpabiliser, mais je ne sais pas d'où ça vient, plus souvent que les papas. Alors, c'est là peut-être aussi qu'on voit qu'il y a un équilibre, c'est bien d'être à deux, mais... Pourquoi les mamans ont cette propension à culpabiliser plus facilement? Est-ce que c'est parce qu'elles ont porté le bébé? Bon, ça, c'est un autre sujet, mais en tous les cas... On doit les rassurer. Et la culpabilisation, elle vient très, très vite. Le pleur, l'enfant qui dort pas, l'enfant qui veut pas manger, les troubles de l'oralité. Bref, je vais pas en rajouter, mais les sujets sont très nombreux où, très facilement, une maman va se dire, c'est de ma faute. Je suis pas une bonne mère, j'ai pas fait comme il fallait. Non. Non. Par contre, c'est d'écouter les autres, d'aller sur Internet, de se comparer à d'autres, etc. Non, il faut pas. Il faut, encore une fois, s'écouter, s'apprivoiser, et souvent, ça suffit.
En tout cas, là, ce que vous dites par rapport au pédiatre et à l'écoute, finalement, le conseil que vous donnez aux parents, c'est que s'ils ne se sentent pas écoutés par leur pédiatre ou leur médecin, de changer.
En tout cas, c'est important de se sentir écouté.
En quelque sorte. Moi, j'ai des patients qui ne sont plus revenus me voir. Surtout quand je me suis installé au début. Probablement, je n'étais pas assez à l'écoute. Je sortais de mon poste d'hospitalier, je faisais des maladies rares. Pour moi, ce qui comptait, c'était de faire le diagnostic. J'étais à l'écoute, bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Et qu'on n'enseigne pas à la faculté, malheureusement. On nous enseigne de ne pas passer à côté d'un diagnostic, de connaître les maladies rares, de savoir quel bilan il faut faire, à quel moment. Et c'est vrai que c'est notre métier. Mais ça ne suffit pas. On peut demander une IRM parce qu'il y a une suspicion d'appendicite, mais avant, il faut quand même savoir pourquoi cet enfant de 8 ans se tord de douleur, savoir depuis quand, dans quel contexte il vit à la maison, s'il n'a pas eu du harcèlement à l'école, savoir si on ne lui a pas chipé un jouet ou quelque chose, et au fond, ces douleurs abdominales très intenses qui peuvent simuler une appendicite, ça vient peut-être de là. Donc ça, c'est l'expérience qui joue, et c'est là qu'on voit qu'il faut prendre du temps avec un enfant et avec les parents pour connaître un peu la situation, l'environnement avant de demander. Et ça, ça demande du temps.
Anne-Céline nous disait voilà, justement qu'elle a, avec les années et l'expérience, son sens de l'observation et puis la disponibilité, le temps. Aussi, vous disiez voilà, que là, peut-être pour ce troisième bébé, il y a un congé maternité un peu plus long, du coup, plus le temps de l'observer. En tout cas, vous avez pu remarquer voilà, les compétences de votre bébé. Quelles sont les compétences d'un bébé à la naissance et, en tout cas, quand
Elles
il est tout petit.
Elles sont extraordinaires. Alors, j'ai beaucoup de chance. Demain, je vais rencontrer Boris Cyrulnik. On va faire un plateau ensemble. Au maternel, et quand je vois ce qu'il porte sur les 1000 jours, alors l'OMS, les 1000 jours, ça va du quatrième mois à la fin de la deuxième année, ça fait 1000 jours. Pour des neuropsychiatres, c'est plutôt de la conception jusqu'à la fin de la deuxième année. Mais bon, c'est vrai qu'un fœtus a déjà des compétences très importantes. Et plus on avance dans les neurosciences, plus on avance dans la recherche, dans l'observation, dans plein de choses, plus on se rend compte de ça. Un bébé a énormément de compétences. Et moi, on avait commencé par ça tout à l'heure, quand je vois un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, je ne me lasse pas. Parce qu'un bébé est en train de communiquer plein de choses à sa mère et à son père, aux personnes qui sont là, mais que les parents ne vont pas forcément voir. Parce que les parents sont dans une telle émotion, le bébé vient de sortir, il a fallu pousser, il y a encore le placenta qui doit sortir, enfin, bon, il y a plein de choses, on est fatigué, il fait chaud, enfin, il y a du monde qui tourne tout autour, pour peu que ça ait été un accouchement un peu musclé, il y a eu du monde, enfin, puis on a aspiré le bébé, enfin, le pédiatre qui a montré le bout de son nez, on se dit, oulala, s'il y a le pédiatre qui est là, c'est qu'il va y avoir un problème, enfin, bref, donc, il y a plein de choses. Mais, le bébé, il vient de naître, et il est déjà en train de communiquer les choses. Il y a des bébés qui naissent en train de dormir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Tout à l'heure, on parlait du sommeil. Il y a des bébés que j'ai vus qui dorment en plein accouchement. Ils roupillent. Alors évidemment, nous, on n'aime pas trop parce qu'on a besoin qu'ils crient pour déplisser ses poumons et que tout se passe bien. Mais je vois des bébés qui déplissent leurs poumons, mais qui dorment. Alors évidemment, nous, on regarde, on s'assure, on écoute quand même avec notre stéthoscope pour voir si le poumon s'est bien rempli la cage thoracique et que tout va bien. Mais il nous dit quelque chose. Ben, je dors, tout va bien et l'accouchement s'est très bien passé. Il y en a d'autres qui vont commencer à bouger des bras. Ils bougent les bras, ils ont les réflexes archaïques dont on parlait avant. Le réflexe de Moreau.
Le réflexe de Moreau?
Le réflexe de Moreau, ce sont des réflexes primitifs, des réflexes archaïques. Il y en a beaucoup, il y en a une quinzaine. Il y en a qui sont plus connus, comme la succion. La succion, c'est un réflexe primitif. Si un bébé n'avait pas la succion, il ne pourrait pas téter. C'est un réflexe primitif. Le réflexe de Moreau, c'est quand on prend un bébé par le grasping, c'est aussi un réflexe archaïque. On met les doigts sur la main d'un bébé et c'est extraordinaire. Ça, vous l'avez fait certainement avec vos bébés. On met le doigt dans la main du bébé et tout de suite, il ferme la main et il lâche plus. Et c'est un réflexe primitif. Alors nous, ce qu'on regarde, c'est s'il est symétrique et de même force. Parce que nous, on est pédiatre, on regarde s'il n'y a pas une asymétrie qui pourrait vouloir dire d'autres choses. Mais il est extraordinaire, ce réflexe. Et après, le bébé va ouvrir la main. Puis après, il va resserrer. Et il va disparaître avec le temps. Il disparaît vers l'âge de 2-3 mois. Et ce qui est tout à fait bien. Le réflexe de Moreau, lui, c'est le bébé qu'on tire un peu, soit par le grasping. On peut même le suspendre comme ça. Il s'accroche, puis on tire. Il a la tête qui part en arrière, on le soulève, on décroche les épaules. Et à un moment donné, on lâche. pour qu'il tombe. Enfin, on ne laisse pas tomber de 15 cm, mais de ça, à peine.
De 3 cm,
oui. 1 cm, à peine. Mmh. Et l'objectif, c'est de voir comment il va réagir. Mmh. Ça, c'est le réflexe de Moreau. Il y a un bébé, il remet ses épaules à plat, il met la tête un peu en arrière, il va étendre et ouvrir les deux bras vers l'extérieur, puis ouvrir les mains, et ça va terminer par un cri. Ça, c'est ce qu'on appelle un réflexe de Moreau complet. Pour nous, ça donne un certain nombre d'indications, mais c'est extraordinaire. Et il y en a comme ça tout un tas d'autres. Eh bien, à peine un bébé vient de naître, il dit ça. Il y a le cri, le pleur d'un bébé qui vient de naître. Les parents, ils entendent le pleur. Ça les rassure de voir que bébé pleure. On va le conforter, on va le prendre dans les bras. Mais en même temps, pour nous, c'est très important de voir et d'entendre un bébé pleurer. Il nous dit des choses. Et nous, pédiatres, la façon dont le bébé pleure, on va bien entendu décrypter ça totalement différemment de la façon dont la maman ou le papa vont. Eux, ils vont. Mmh. Ils voient le bébé qui est là, il respire, il vit, il est rose, tout va bien. Nous, on entend, il pleure, il a un cri, il a une symétrie au niveau des lèvres, on voit qu'il a un pleur qui est symétrique, qu'il y a pas une petite, ça part pas d'un côté. On voit plein de choses qui, nous, vont nous aider pour la suite.
Oui, pour évaluer que tout va bien.
Pour évaluer que tout va bien sur le plan neurodéveloppemental, déjà à la naissance. Mmh. Il a des choses à dire. Il y en a qui vont faire une selle en sortant. Mmh. Allez, paf. Sur maman.
Sur
allez.
Papa.
Ou sur papa. Voilà. Bah, c'est très bien. C'est voilà, le bébé s'exprime.
Mmh. Oui, donc le bébé, il a vraiment plein de manières de s'exprimer.
Plein de manières. Mmh. Alors, avec ses moyens à lui, mais sur la manière. Alors, l'ouverture des yeux. Un bébé né avec un blépharospase, c'est-à-dire les paupières qui sont fermées, mais il les ouvre un peu, il ne voit pas loin, il voit à 30-40 cm, il ne voit pas la couleur. La couleur, ça vient vers 2-3 mois. Il voit surtout le noir et le blanc. Eh bien, il y a des bébés qui naissent avec les yeux grands ouverts. Je ne sais pas si l'un de vos enfants s'est arrivé ou. En général, c'est au bout de quelques jours.
Ouais, j'ai pas de souvenir. Je crois qu'ils avaient plutôt les yeux fermés. Ils étaient un peu stone.
Voilà, ben, c'est classique. Et c'est normal au début. Ils étaient dans un milieu liquide, donc c'est plutôt les yeux fermés. Petit à petit, les yeux vont s'ouvrir. Il entend un bruit. Il va tourner le visage vers le bruit. C'est incroyable.
Ouais.
Oui, donc tous ces sens vont être en éveil. Et on sait d'ailleurs aujourd'hui que les différents sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue est le dernier, c'est peut-être le sens dont le bébé a le moins besoin in utero. Mais voilà, que tous ces sens déjà se développent in utero et qui vont continuer de se développer par la suite.
Ah oui, la vue, l'audition, l'odorat. Alors l'odorat, c'est extrêmement important. Et alors, c'est amusant, vous parlez des sens, mais un bébé n'est que sens. C'est les sens. Et le problème, c'est qu'en grandissant, on est en train d'étouffer nos sens. Et nous, en tant qu'adultes, on doit vivre avec nos sens. Les sens, c'est primordial. Et alors, c'est amusant, parce qu'on parle des cinq sens, mais il y en a sept. Il y a un sixième et un septième. Le sixième, c'est l'équilibre vestibulaire, c'est-à-dire de pouvoir tenir en équilibre. Très important. Tous ceux qui sont dyspraxiques et tout ça, c'est un sens qui ne s'est pas bien développé pour tout un tas de raisons. Et le septième sens, c'est la proprioception. C'est-à-dire de positionner son corps dans l'espace. Un exemple très simple, le fait de pouvoir mettre son doigt directement sur son nez, ça c'est la proprioception. Si elle ne se développe pas bien, on va toucher à côté, on ne va pas faire. Bon, il y a des gens adultes qui ne savent pas faire ça du premier coup. Parce que il y a eu des blocages quand ils étaient dans leur petite enfance. Et les ergothérapeutes, les psychomotriciens savent travailler ça.
Vous nous disiez tout à l'heure, voilà, vous disiez cinq choses. La boîte à outils, vous nous avez parlé de l'observation, de mettre sur le ventre. Quels seraient les trois derniers conseils
alors,
à donner aux parents?
J'ai dit cinq, mais oui, il y a, alors l'observation. Surtout, je leur dis, observez votre enfant. C'est votre enfant. Deux, appropriez-le-vous. Ne laissez pas les autres vous envahir. Fermez la porte. Vivez à trois. Vous allez avoir plein de coups de fil. Alors, je vois parfois des papas qui sont là, je leur téléphone, envoyer des photos, mais je leur dis, vous êtes en train de passer à côté de plein de choses. Observez votre enfant. Observez la maman. Vous ne le revivrez jamais, ça. Le téléphone, on s'en fout. Éteignez-le. Et la famille, tout ça, laissez-les un peu mariner, ça leur fera du bien, parce qu'ils vont vous dicter votre conduite. Et c'est pas ce que vous voulez. Ah oui, vous avez raison. Bon. S'approprier son enfant. Donc, savoir laisser les autres à distance. Pareil dans le séjour en maternité, qui est de plus en plus court, surtout en ce moment. Ces deux journées-là, ou trois éventuellement, il faut les passer. C'est là qu'on construit quelque chose de serein. À trois, le bébé et les deux parents. C'est important. Prenez le temps. Écoutez-vous, mais ça je l'ai déjà dit, le fait de positionner le bébé sur le ventre. Et puis... je fais un petit truc sur la notion de culpabilité. Je dis aux parents, je leur dis, après avoir examiné l'enfant, en leur disant, le bébé va bien, les hanches, le cœur, tout ça, tout va bien, mais ne culpabilisez pas. Vous allez avoir plein de raisons de culpabiliser. L'allaitement qui ne va pas bien se passer, votre enfant qui va se mettre à pleurer, ceci, ceci, cela. Avant d'appeler la belle-mère, avant d'appeler ceci, un tel, ou... regardez votre enfant, écoutez-le, vous avez souvent la réponse en vous, même si c'est votre premier enfant. Et il vous le rendra bien. Parce que un enfant, c'est un buvard. Et s'il sent que les parents sont anxieux, ben, il va faire des gaz, il va faire des coliques, il va avoir des troubles du sommeil, il va pourrir un peu la vie des parents. Alors qu'en fait, ben, c'est peut-être les parents qui ont pourri un peu, enfin, non, j'exagère un peu, mais qui ont donner une certaine anxiété à l'enfant. Et l'enfant, il a tout simplement besoin de sentir que tout va bien, que ça se passe bien, que les parents sont rassurés. Alors évidemment, on se pose des questions, c'est normal d'être inquiet. Mais il faut savoir dire à un bébé, bah, tout va bien, le caresser, comme vous disiez tout à l'heure, le porter. Et ça, c'est essentiel pour un bébé.
Merci beaucoup pour tous vos conseils et vos éclairages. Alors, je recommande souvent des lectures à mes patients. Anne-Céline, est-ce que vous avez lu quelque chose qui vous a aidé?
C'est sûr que le livre qui m'a été conseillé par des amis d'ailleurs, des amis filles qui avaient eu des enfants avant moi, c'est Bébé, dis-moi qui tu es, qui reprend beaucoup de bases en fait de puériculture. Ma maman. Qui m'a parlé de Françoise Dolto assez jeune, en fait, et sans avoir lu de moi-même de livres de Françoise Dolto, mais elle m'a donné des grandes lignes de ce qu'elle pouvait dire au sujet des bébés, et ça m'a beaucoup aidée. Et puis pour la naissance aussi, le livre de Isabelle Brabant, pour une naissance heureuse, voilà, ça m'a aidée aussi.
Ok, merci Anne-Céline. Docteur Ferzorf, est-ce que vous auriez. Des choses à nous recommander, à recommander aux parents qui nous écoutent, même si bien sûr ça ne remplace pas l'observation comme vous nous l'avez dit.
Faites des enfants. C'est la vie. Et surtout écoutez vos enfants parce que les enfants ils aident à grandir. Ils aident les adultes à grandir. Et ça c'est très important. Il faut regarder son enfant et surtout quand il va arriver à l'adolescence. Il ne faut pas aller dans le conflit, il faut écouter son enfant, il faut savoir se remettre en question aussi en tant que parent. C'est essentiel. Moi, j'ai beaucoup appris de mes enfants.
C'est un long chemin
parce
d'être
parent. J'ai pas toujours été forcément un bon père. Hein. J'ai pas toujours eu forcément des attitudes adaptées. On apprend aussi avec ses propres enfants. C'est pas parce qu'on est pédiatre qu'on fait tout bien, faut pas croire.
Un très grand merci, Anne-Céline, d'être venue partager avec nous vos questions.
Merci
et
à vous.
Ce que vous avez vécu avec vos enfants. Un immense merci, Dr Ferzdorf. Je rappelle que vous êtes pédiatre à Strasbourg et que vous intervenez dans la maison des maternelles sur France 4.
Merci à vous.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.